Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog lecarnitial.com, le podcast qui vous accompagne pendant vos sessions de dessin. Je suis Sandre, votre hôte, et j'enseigne le dessin en ligne à quiconque est prêt à oublier tout ce qu'il sait sur cet art, et ce, même si vous pensez n'avoir aucun talent. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner pour recevoir des astuces et conseils de professionnels, comprendre leur psychologie et progresser en dessin autrement.
C'est grave de décalquer ? Non, à mon sens, c'est pas grave de décalquer, tout dépend de quel est ton objectif avec cette illustration. Est-ce que ton objectif, c'est de t'améliorer en dessin ou est-ce que c'est de vendre ton illustration ? D'un côté, moi, j'ai tendance à dire que de base, décalquer, ça rend rarement bien parce que la réalité est toujours un peu plus ennuyante, ennuyeuse que la vraie vie. Tu vois, c'est comme quand on fait de la rotoscopie. La rotoscopie, c'est décalquer quelqu'un qui est en train de bouger, qui fait un mouvement. Ça s'est beaucoup fait, en fait, pour les anciens Disney. Par exemple, sur les séquences de danse de Blanche-Neige, on a des séquences de rotoscopie. Donc, les studios de Walt Disney ont demandé à des acteurs de danser et ensuite, ils ont pris chaque image une par une et ils les ont redessinées, ils ont redécalqué pour faire le mouvement des danseurs et pour que ça leur fasse gagner du temps, notamment. Et puis aussi parce que je pense que c'est assez complexe. En fait, quand tu es animateur et que tu animes une séquence de danse, ça veut dire que tu dois être animateur et danseur, ce qui est quand même complexe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit énormément de personnes qui font on voit des archers qui ne tiennent pas les arcs de la bonne manière. Alors, j'y connais rien en archerie, je sais pas comment on appelle ça, mais je n'y connais rien, mais je peux juste te dire que la plupart du temps, la manière dont on voit des archers dans les jeux vidéo ou dans les dessins animés n'est pas... la position réelle et réaliste qu'on doit utiliser dans la vraie vie. Donc est-ce que c'est mal de décalquer ? Je pense pas que ce soit mal de décalquer dans le sens où tu veux aller plus vite, tu veux gagner en efficacité et en temps. Par contre, évidemment, si t'es là pour apprendre le dessin et que tu veux progresser, etc., évidemment, décalquer, pour moi, c'est pas ce qui te fera progresser le plus rapidement. Et concernant la question de est-ce que tu dois le dire au client, je pense que tout dépend de d'où vient la source que t'as utilisée pour décalquer. Dans le cas, par exemple, de Walt Disney, bah, c'était leurs acteurs, tu vois. Ils ont payé ces acteurs, ils ont payé des contrats pour que les acteurs acceptent qu'ils donnent leur droit d'image au studio de Walt Disney, que ça puisse être utilisé dans ce cas-là pour Blanche-Neige, mais aussi pour Robin des Bois. Il y a aussi une séquence qui a été tournée pour Robin des Bois. Enfin, c'est la même séquence qui a été réutilisée, en fait, parce que ça fait gagner du temps, tout simplement. Ils avaient juste besoin de changer les têtes, les costumes, etc. Mais le mouvement, l'animation en tant que telle, c'était la même chose. Tu peux utiliser plein de bases. Par exemple, tu peux utiliser aussi tes propres photos, tu vois. Moi, j'ai beaucoup... Alors, j'ai pas décalqué parce que je vais y venir après, mais j'ai beaucoup utilisé des photos références de moi-même. Quand je travaillais sur le jeu vidéo Ninecall, j'ai fait des animations, etc. Je me filmais en train de faire le mouvement. Et c'est ça qui me servait de base ensuite pour faire... mon animation, en fait, ça me fait gagner du temps. Je trouve, moi, que quand tu décalques, du coup, c'est ce que je disais au début, mais quand tu décalques, tu recopies la réalité de manière trop parfaite. Et en faisant ça, en fait, ça a tendance à rendre soit le mouvement, soit le dessin en tant que tel très terne, en fait. On n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais il y a un truc qui s'appelle le Uncanny Valley. Ça vient d'un terme de robotique. Quand la robotique est arrivée, on a essayé de donner des traits humanoïdes en fait au robot, avec des sourcils, des yeux, voilà, de la peau, et ça allait de plus en plus de manière réaliste. Ça mène en fait, si tu veux, une progression du réalisme. Au plus on essayait de rajouter des éléments qui étaient empruntés en fait à quelqu'un d'humanoïde, au plus ça devenait réaliste, et au bout d'un moment en fait, la courbe de réalisme, elle allait dans l'autre sens. Et ça crée un personnage un peu monstrueux, un peu bizarre, parce que nous, les humains, on est très très doués pour définir quand il y a quelque chose qui cloche chez un humain. Souvent parce que bah, peut-être il a une maladie, il a une déformation, quelque chose comme ça, et donc nous, en tant qu'humains, dans notre ADN, enfin je sais pas trop, la manière dont on est conçu, on évite du coup d'être attiré par ces personnes-là parce qu'on veut pas avoir des maladies, enfin c'est triste à dire hein, quand on y pense, mais on veut pas avoir de contact parce que notre descendance pourrait avoir des maladies, etc. Donc c'est un truc qui est très ancré en nous. Donc on est très très bon pour déceler en fait quand il y a quelque chose qui cloche dans le visage de quelqu'un. Et donc je pense que ce terme de la Uncanny Valley, ça s'applique aussi à mon sens à tout ce qui est décalcage. Tout ce qui est rotoscopie, quand tu commences à faire de l'animation, tu t'en rends compte en fait. Tu vois qu'il y a de la rotoscopie parce que le mouvement, il est pas assez... Comment dire ? Il est un peu droit, il est un peu rigide, voilà. Il est un peu rigide. Parce que quand on fait de l'animation, on a tendance à exagérer, on a tendance à caricaturer ou magnifier la réalité pour la rendre encore plus belle en fait. Et si tu rotoscopes, bah, tu ne fais que la copier-coller en fait, de manière un peu robotique. Et si on va encore plus loin, je trouve que c'est ce qu'on retrouve aussi dans les illustrations faites par intelligence artificielle, à mon sens. Un truc où ça commence à manquer un peu de vie, il y a un truc un peu... Je sais pas comment l'expliquer, mais quand on fait, par exemple, les animateurs s'en rendent très très vite compte de la rotoscopie, les dessinateurs se rendent très vite compte quand il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée. On se rend très vite compte quand une personne a une difformité ou quelque chose comme ça. Donc c'est avec l'œil aussi qu'on s'y habitue. Tout dépend de ton style aussi, parce que quand tu recopies la réalité, bah du coup tu vas réutiliser des proportions qui sont liées à la réalité. Or peut-être que ton style de dessin ne va pas du tout s'adapter à un élément rapporté qui est lui extrêmement réaliste, si tu veux. Donc ça dépend vraiment. Imagine si t'as quelque chose d'extrêmement simplifié, cartoonesque, un peu BD belge, tu vois, avec des gros nez et tout, et que tu recopies, tu décalques la photo d'une vue, voilà, je sais pas, faite avec un drone, ou c'est New York, j'en sais rien, bah tout de suite ça va être bizarre, ça va jurer, parce que ton niveau de détail dans ce que t'auras décalqué et ton niveau de détail dans ton dessin de personnage avec les gros nez, etc., bah ça sera pas du tout... égal en fait, équivalent. Simplement, j'aurais tendance à éviter, parce que c'est aussi bien pour toi de travailler ce truc-là, de pas décalquer, et du coup en travaillant sur ce truc-là, ça va te faire progresser pour une prochaine illustration, et qui sait, tu vas peut-être trouver un style graphique qui sera intéressant pour une prochaine illustration. Je trouve que c'est intéressant quand un artiste devient un peu paresseux et essaie de trouver des codes graphiques qui lui permettent de raconter autant tout en enlevant des détails, tu vois, en faisant un peu moins. Donc ça peut être intéressant pour toi de ne pas mettre ces détails-là. Faut pas... voir le décalcage comme quelque chose de totalement négatif. Je pense que même tu peux apprendre des choses en décalquant. Simplement, je pense que ça dépend tellement de la personne. Je pense que toi, tu le sais en fait. Tu t'en rends bien compte si décalquer c'est important pour toi, ça t'aide et ça rend bien aussi ou pas en fait. Donc c'est quelque chose d'assez personnel qui est très très relatif au style. Mais dans tous les cas, la question de est-ce que tu devrais décalquer quand tu apprends le dessin ? Non. Clairement, non. Ça va au contraire t'apporter pour moi plus de problématiques que tu vas retrouver dans le futur de ta progression, plusieurs semaines, mois, années, plus tard. Des mauvaises habitudes en fait que tu vas prendre à cause de ça. Tu n'utilises pas du tout les mêmes muscles. C'est comme si tu jouais aux jeux vidéo en utilisant un cheat code, tu vois. Bah tu peux utiliser le cheat code et tu peux t'amuser à utiliser le cheat code, mais tu peux pas aller faire une compétition de e-sport en cheatant en fait. Parce que bah c'est pas juste par rapport aux autres. Peut-être pas la meilleure des métaphores, mais bon. Franchement c'est dur pour moi de dire, donc c'est là que je fais ma pub. Le mieux, c'est que tu prennes un cours avec moi. Ah, j'aime pas faire ça, c'est horrible. Non, en vrai, je fais des corrections de dessin, en fait. Donc, je peux en profiter pour vous en parler. Mais je fais des corrections de dessin personnalisées. Donc, en fait, toutes les semaines, tu peux m'envoyer un dessin et je fais une correction en vidéo. Voilà, j'essaie de t'aiguiller sur qu'est-ce que tu peux travailler, qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux améliorer. Tu peux te donner des exercices spécifiques en fonction. En fait, tu peux faire ça toutes les semaines. Tu me renvoies la même illustration qui a avancé ou une autre illustration. Et moi, je te la corrige. Et je vous mets le lien dans la description. C'est plus les professionnels, en fait, qui ont besoin de ce genre de choses parce que bah, ils améliorent leurs propres illustrations et donc ils peuvent aussi augmenter leurs tarifs s'ils le souhaitent, etc., etc. C'est du backseat. Exactement, c'est du backseat. On peut dire que ce live est sponsorisé par moi-même. Voilà. Du coup, est-ce que c'est du plagiat ? En fait, je pense que ça dépend de la référence que tu utilises. Donc évidemment, il faut toujours mieux utiliser une référence photographique que toi-même tu as créée, donc qui est basée sur ta propre photo que tu as prise et encore mieux de ta pose à toi ou de toi. Par exemple, la question de si tu prends en photo un bâtiment et que tu décalques le bâtiment, est-ce que c'est un problème ou pas ? Ben, on pourrait se dire non, c'est pas un problème. Eh ben pourtant, ça peut être un problème. Quand j'ai travaillé sur Nine Call, donc Nine Call qui est un jeu vidéo qui se passe à Paris, on a énormément de représentations du coup de la ville de Paris. Donc quand j'ai bossé sur Nine Call, on voulait évidemment représenter à un moment donné la Tour Eiffel, parce que c'est quand même à Paris que ça se passe. Eh ben, on pouvait représenter la Tour Eiffel, mais on n'avait pas le droit de représenter la Tour Eiffel en train de scintiller, parce que les scintillements de la Tour Eiffel sont sous copyright, en fait. Ils appartiennent à je suis pas trop détenteur ou je sais pas quoi, bref. Donc, en fait, pendant tout le jeu, on avait le droit de représenter la Tour Eiffel, même si les droits, j'imagine, appartiennent aux descendants de Eiffel, mais la luminosité, enfin, vous savez, elle s'éclaire, je crois, toutes les heures, ça, c'était interdit de le montrer en cinématique. Ce qui est quand même fou quand on y pense, en fait. Il y a un gars, il a copyrighté ce truc-là, tu vois. Dans notre cas, vu que c'était un jeu vidéo, bah tu peux pas... Enfin, c'est quand même problématique. Si ton jeu vidéo, il se fait attaquer en justice par les gars qui possèdent les droits de la lumière de la Tour Eiffel, tu peux... Voilà, ça peut être quand même compliqué. J'ai eu d'autres cas aussi, j'en ai discuté avec des collègues qui font de la BD, par exemple, des auteurs de BD. Quand tu représentes, par exemple, une œuvre picturale dans ta BD, même si elle est stylisée, Alors, je vais peut-être donner un mauvais exemple, mais imaginons, tu dessines la Joconde dans une BD, ben potentiellement, les personnes qui possèdent les droits de la Joconde et l'image de la Joconde peuvent t'attaquer en justice. Et j'ai l'impression qu'en BD, ils sont très très regardants, ils font vraiment très attention. Ça peut aller jusqu'à, si tu recopies le cadrage d'un film et que tu l'inclus dans ta BD, que ce soit un hommage, que ce soit... juste inspiré parce que tu te souviens de ce plan-là et que voilà, tu as envie de le reproduire dans ta BD, ça peut être aussi problématique et tu peux aussi avoir un procès et tu peux aussi être mal vu dans le monde de la BD parce que tu as recopié un cadrage. J'aurais jamais pensé que ça serait mal vu de représenter la Joconde dans ma BD. Je veux dire, il y a des choses qui existent dans notre réalité qui font partie de la culture générale de notre humanité. C'est dommage quand même de se dire qu'on ne peut pas les représenter dans une BD. Après, je vous avouerai, je connais pas toutes les questions juridiques derrière. Je pense qu'il y a une espèce de flou même juridique et que les artistes eux-mêmes ne savent pas exactement ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et avec les questions d'intelligence artificielle, c'est encore pire, qui me fait d'ailleurs du mal parce que je me dis, en fait, on laisse passer des trucs en intelligence artificielle, mais on va saouler les artistes, les auteurs de BD parce qu'ils ont représenté une œuvre d'art dans une BD. Bref, il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Donc, je vous parle même pas des questions de décalquer, parce que là, on parle même pas de décalcage, on parle de juste inspiration, quoi. Tout ça pour dire, attention aux images que vous utilisez, que vous les décalquiez ou non, parce que ça peut poser problème par la suite en termes juridiques. Par exemple, Ubisoft scanne un bâtiment, ils le décalquent, c'est pas grave, non ? Ben, en fait, quand ils ont fait ça, ils ont dû demander des droits, je pense. Ils ont pas pu juste décalquer, ils ont pas pu scanner, en fait, des bâtiments comme ça et les utiliser gratuitement. Hein. Ils ont dû demander des autorisations et ça a dû être un calvaire immense. Il y a le même flou avec le fanart. Si vous êtes allé à la Japan Expo, vous avez peut-être déjà vu, mais tous les stands vendent à 99% du fanart. Donc ça veut dire du fanart Zelda, Mario, Pikachu, Pokémon, tous ces trucs-là. En principe, légalement, vous n'avez pas le droit de faire d'argent avec du fanart. Donc si vous redessinez un personnage existant qui appartient à une IP, une licence qui n'est pas votre licence, vous n'avez pas le droit de faire d'argent avec. Or, à la Japan Expo, c'est que ça. Les gens revendent des cartes postales, des posters, des petits porte-clés, des choses comme ça. Vous n'avez pas le droit de faire d'argent en principe là-dessus. Vous pouvez potentiellement avoir des complications si vous commencez à vendre du fanart. Après, dans les faits, je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas vous en dire plus que ça, mais ce n'est pas très bien vu non plus.